Chapitre 22. Ma nomination comme curé de Beauport. Le 21 septembre 1838 fut un jour de deuil et de larmes pour moi. Mon ami, M. Cazot, m'avait apporté avec ses félicitations ma lettre de nomination à la cure de Beauport. Une sentence de mort ne m'aurait pas tant affligé que cette lettre. Je n'avais jamais caché à mes collègues ma répugnance à être curé de cette paroisse qui était un vrai repaire d'ivrogne, ce qui ne l'empêchait pourtant pas d'être l'objet de la convoitise d'un grand nombre de prêtres. Après avoir lu la fatale missive qui m'envoyait dans ce triste lieu, je cherchais le moyen d'échapper à ce coup de foudre. Je pensais que si j'allais parler à l'évêque et lui exprimer les raisons que j'avais de repousser le trop pesant fardeau qu'il venait de mettre sur mes épaules, il se laisserait peut-être attendrir. Je savais d'ailleurs qu'un grand nombre de prêtres convoitaient cette paroisse avec autant d'ardeur que j'en mettais à la refuser. Je me rendis donc au palais épiscopal et j'y plaidai ma cause avec une éloquence qui me parut devoir être irrésistible. L'évêque m'écouta, sans m'interrompre, avec l'attention et la bonté d'un père. Puis il me dit « Mon cher Chiniki, vous oubliez trop que la première vertu d'un bon prêtre est d'obéir à ses supérieurs. Il n'y a pas longtemps encore, vous m'avez singulièrement désappointé lorsque vous avez décliné l'honneur d'être nommé évêque de l'Oregon, où nous avons tant de Canadiens qui oublient leurs principes religieux, faute d'évêque. Je ne vous le cache pas, votre obstination à refuser de vous rendre à nos justes désirs, dans une chose qui était aussi honorable pour vous qu'utile à l'Église, m'a profondément peiné. Si vous continuez à préférer vos propres idées à celles de vos supérieurs, je crains pour votre foi quelques grands naufrages, dans un avenir plus ou moins éloigné. Je regrette d'avoir trop souvent plié devant votre résistance à ma volonté. Aujourd'hui, autant par respect pour moi-même que pour votre propre bien, j'exige de vous une soumission absolue. Quod scriptum, scriptum est. Votre nom est écrit dans mes registres comme curé de Beauport. Il y restera comme tel jusqu'à ce que j'aie de meilleurs motifs que ceux que vous m'avez donnés pour l'en effacer. Vous m'avez parlé de l'ivrognerie qui règne à Beauport comme une des raisons qui devrait m'empêcher de vous nommer son curé. Mais c'est justement à cause de cela que je vous ai chargé du soin de cette paroisse. Je ne connais pas dans mon diocèse de prêtre plus capable que vous de lutter contre ce vice dégradant. Après tout, je ne vois pas pourquoi vous vous désolez tant d'être nommé curé de cette paroisse. C'est la plus belle du Canada et l'un des sites les plus enchanteurs du monde entier. Outre les revenus considérables que vous y trouverez, vous jouirez de tous les avantages de la ville, unis au charme d'une des plus belles campagnes de ce continent. L'évêque s'arrêta un moment après ces paroles, puis, avec un sourire plein d'affabilité, il ajouta « Si vous n'êtes pas content de votre évêque, aujourd'hui, je ne sais trop comment m'y prendre pour vous satisfaire. » Quelques jours avant de quitter Beauport pour sa nouvelle cure, M. Bégin m'invita à prendre part à la vente publique de ses meubles pour acheter ce qui me conviendrait pour mon nouveau presbytère. Le peuple de Beauport, presque tout entier, m'avait devancé à la cure, non seulement pour donner une dernière marque d'estime à leur ancien curé, mais sans doute aussi pour y voir leur nouveau prêtre. Je ne fus pas longtemps parmi la foule sans m'apercevoir que ma petite stature et ma maigreur extrême étaient l'objet de la risée et du mépris général. J'entendis un des habitants qui murmurait à l'oreille de son voisin. « Notre nouveau curé n'est pas plus gros que ma blague à tabac. Je pense qu'il logerait aisément dans mes poches. » Une femme qui n'était qu'à deux pas de moi dit à sa voisine assez haut pour que je l'entende « Dis donc, cousine, ce pauvre petit curé n'a-t-il pas l'air d'une sardine salée ?» Et sa voix se perdit dans ses rires. La vente était presque terminée lorsqu'on apporta une longue table chargée d'une fabuleuse quantité de verres à vin, à rhum et à liqueur, ainsi qu'une multitude incroyable de carafons et de bouteilles de toute grandeur. De bruyants éclats de rire et de joyeux applaudissements accueillirent cette apparition dégoûtante. Tous les regards se fixèrent sur moi et sans voix me dire « Voilà pour vous, monsieur le curé ». Sans peser suffisamment ce que je disais, je répondis immédiatement avec un grand sérieux. « Je ne viens pas à Beauport acheter des verres et des bouteilles, mais je viens les casser. » Une étincelle en tombant sur un baril de poudre n'aurait pas causé une plus subite et plus terrible explosion que ces imprudentes paroles en éclatant au milieu de la foule qui m'environnait. Sans être absolument ivre, la plupart de ceux et de celles qui étaient là avaient bu quantité de verres de rhum que le curé Bégin lui-même leur avait donné dans une des chambres du presbytère. Un vrai déluge de jurements, de blasphèmes, d'insultes et d'outrages, comme je n'en entendis jamais, m'assaillirent de tous côtés, et force me fut de m'esquiver par le plus court chemin. Je me rendis à l'instant au palais épiscopal, conjurai de nouveau mon évêque de donner la cure de Beauport à un autre prêtre. Je lui confessai ingénument mon imprudente réponse, et je lui dépeignis, sous leur vraie couleur, les outrages qu'elle m'avait attirés, et j'ajoutai : Vous voyez, monseigneur, que j'ai perdu, et pour toujours, la confiance et l'estime de ce peuple. Confiance et estime sans lesquelles je ne puis rien faire au milieu de lui. Envoyez-moi dans les forêts les plus reculées de votre diocèse. J'y prêcherai avec joie et j'espère avec succès. Mais j'aimerais mieux être porté en terre, dimanche prochain, que d'aller au milieu d'une paroisse aussi dégradée par la boisson que celle de Beauport. L'évêque me répondit : Je suis loin de partager vos regrets de la réponse que vous avez faite à ces gens. Il est évident qu'ils voulaient voir de quel bois vous vous chauffiez. Si vous aviez eu la faiblesse de plier et de vous rendre à leur désir, vous étiez à jamais perdu dans leur estime et dans la mienne. Mais vous vous êtes montré brave et intrépide jusqu'à l'héroïsme dans votre réponse et vous avez, j'en suis certain, gagné leur estime et leur respect pour toujours. Je connais le peuple de Beauport depuis longtemps. Il est adonné à l'ivrognerie d'une manière lamentable, mais à part ce vice, il n'y a pas au monde un peuple plus noble. Il n'a pas d'éducation, mais il possède à un haut degré le sentiment de ce qui est juste et vrai. Et vous verrez bientôt que son gros bon sens commun vaut mieux que les livres d'un grand nombre de personnes qui ne savent pas s'en servir. Vous l'avez surpris par votre brusque réponse. Mais les injures que plusieurs vous ont dites ne sont qu'un de ces mouvements primo primus qu'ils ont probablement regretté à un moment précis. Allez, non pas avec vos mains, mais avec vos paroles, cassez les verres et les carafes, et on vous bénira. Il est vrai que ce serait un véritable miracle, mais avec la grâce de Dieu, vous pouvez tout espérer. Allez à Beauport, comme un vrai soldat de Jésus-Christ, combattre l'ivrognerie et les autres vices qui en découlent, et le bon Dieu vous donnera la victoire. Ces paroles si bienveillantes me firent du bien. Je sentis qu'il fallait définitivement me résigner à porter le pesant fardeau qui se présentait devant moi. Il ne me restait plus qu'à mettre ma confiance en Dieu et à marcher vers le champ de bataille d'un pas aussi ferme que si j'avais été certain de la victoire. Il me vint alors à la pensée que j'avais commis un grand péché en refusant d'être évêque de l'Oregon et que Dieu, pour m'en punir, m'envoyait dans cette paroisse de Beauport qui m'apparaissait alors sous de si sombres couleurs. Le dimanche suivant, l'église était littéralement bondée de gens, tous plus ou moins curieux de voir et d'entendre leur nouveau curé. J'avais passé les trois derniers jours en jeûne et en prière. Et Dieu sait que jamais prêtre de Rome, ni ministre de l'Évangile, n'est monté en chair avec des idées plus exaltées de sa sublime mission. Dieu sait aussi que jamais homme ne se sentit plus profondément humilié sous le poids de sa propre misère et de son impuissance que je ne l'étais lorsque je me présentais devant ce peuple pour la première fois afin de lui parler de ses destinées éternelles. Je pris pour texte de mon premier sermon « Malheur à moi si je ne prêche l'Évangile ». 1 Corinthiens 9, 16. Je parlais avec une telle émotion que souvent ma voix était étouffée. Par la grande miséricorde de Dieu, l'effet de ce discours se faisait encore sentir lorsque je quittais cette paroisse 4 ans plus tard. Après le sermon, je dis à mes auditeurs : « J'ai une faveur à vous demander, et comme c'est la première, j'espère que vous ne me la refuserez pas. Je viens de vous parler de quelques-uns des devoirs de votre jeune curé envers vous. Je souhaiterais que vous soyez tous ici cet après-midi, à 2 heures, afin que je vous entretienne de vos devoirs envers lui. » Ils furent unanimes à me le promettre et ils tinrent parole. L'église était si possible encore plus remplie l'après-midi que le matin. Mon texte fut « Le bon berger conduit ses brebis et marche devant elles, et ses brebis le suivent car elles connaissent sa voix. » Jean 10, 4. Ces deux sermons, le même dimanche, était dans l'église du Canada une nouveauté qui me valut bien des critiques amères de la part de mon évêque et des prêtres du voisinage. Ils en conclurent que j'étais un orgueilleux qui voulait se faire passer pour plus zélé et plus saint que les autres. Non content de s'exprimer ainsi entre eux, ils en vinrent bientôt à me le dire à moi-même dans les termes les plus pénibles. Mais mon Dieu savait que mes motifs étaient purs. Je n'avais que 2 choses en vue. La première était d'empêcher mes paroissiens d'aller, comme autrefois, passer l'après-midi dans les tavernes, en les retenant au pied de leur autel par des instructions que je rendais aussi intéressantes et aussi solides que possible. La seconde était de graver la vérité dans leur intelligence et dans leur cœur en la présentant deux fois, sous différents aspects, le même jour. Mais, quoique j'ai été souvent blâmé de tenir deux cultes chaque dimanche, j'ai persévéré pendant les 4 années que j'ai été curé de Beauport, car j'étais de plus en plus convaincu qu'il en résultait un grand bien sous tous les rapports. 3 mois ne s'étaient pas écoulés que je me décidais à établir une société de tempérance dans ma paroisse, y voyant le seul moyen de l'arracher à l'abîme de l'ivronnerie où elle était tombée. J'allais présenter mon projet à l'évêque dans l'espoir qu'il l'approuverait et le bénirait, mais quelles ne furent pas ma surprise et ma tristesse lorsqu'au lieu de m'encourager, il se moqua de moi de la manière la plus ironique et me défendit absolument d'en parler au peuple. « Ces sociétés de tempérance, me dit-il, ne sont que des institutions protestantes pour séduire et tromper le monde sous une fausse apparence de rigidité et de perfection pharisaïque. » Je quittai l'évêque, mais mon âme était dans un état de tristesse inexprimable, espérant cependant que les prêtres qui m'environnaient comprendraient plus aisément le bien incalculable que la société de tempérance ferait à nos populations, je me décidai à leur en parler. Mais ils furent unanimes à m'accabler sous le poids des plus amères critiques et à rire de moi comme d'un visionnaire. Ils me demandèrent tous, au nom du sens commun, de ne plus jamais leur en parler. Non, jamais je ne pourrais exprimer ce que j'éprouvais de tristesse lorsque je vis l'opposition formidable de l'évêque et de tout le clergé à cette réforme que Dieu me montrait si clairement être la seule planche de salut de ma chère paroisse et de mon pays tout entier. Ce Dieu bon, seul, sait ce que j'ai versé de larmes, ce que j'ai passé de nuits sans sommeil, à quelles études je me suis livré, quelles ardentes prières j'ai fait monter vers le ciel lorsque je sentais mon impuissance à lutter seul contre tant d'obstacles. Mais, en attendant de mettre la main à la charrue et de lui faire tracer le premier sillon, que de jours et de mois j'ai passé à prier Dieu et tous les saints. Que de livres j'ai lus, que d'études sérieuses et profondes j'ai faites, que d'heures j'ai consacrées à méditer les meilleurs arguments en faveur des sociétés de tempérance. Je me sentis enfin parfaitement maître de mon sujet. Je savais ce que j'aurais à dire pour enrôler tous les enfants de mon cher Canada sous les bannières glorieuses que le ciel me montrait d'avance dans mes pensées de jour comme dans mes visions de nuit et pour sécher tant de larmes et arracher tant d'âmes à l'enfer. Je connaissais parfaitement l'ennemi que j'allais combattre. Je connaissais la force des armes que le ciel avait mises dans mes mains pour le frapper à mort. Il ne manquait plus qu'une chose, la force pour mettre ses armes en activité. Un jour, il me vint à la pensée d'écrire au père Matthieu, ce grand apôtre de la tempérance en Irlande, pour lui demander le secours de ses conseils et de ses prières, afin que je puisse introduire dans mon cher Canada quelques-uns des bienfaits dont il avait couvert sa patrie. Sa réponse m'arriva bientôt. Elle me parut plutôt écrite par la main d'un ange que par celle d'un homme. Il me disait de me mettre à l'œuvre à l'instant, de ne compter que sur le secours de Dieu, sans m'occuper des hommes. Il me promettait aussi de prier pour moi. Ces paroles descendirent dans mon âme comme venant du ciel même, tant elles me remplirent de lumière et de force. Je me dis à moi-même, si c'est l'œuvre de Dieu, je réussirai quand même tous les évêques et les prêtres et tout l'univers seraient contre moi. J'élèverai mon cœur vers Dieu pour qu'il soutienne mon bras et dirige lui-même le combat. Et ce Dieu bon m'entendit et exauça ma prière. Que son saint nom en soit éternellement béni.